France Inter. Mathilde Munoz. 5-7.
Il est 6h21, c'est l'un des mots du jour. Autosolistes, ces personnes qui roulent seules dans leur voiture n'ont désormais plus le droit de circuler sur certaines voies aux heures de pointe en région parisienne. Ça concerne des portions des autoroutes A1 et A13 et du périphérique parisien. Les files de gauche sont réservées au covoiturage ainsi qu'aux bus et aux taxis. Alors je le redis, aux heures de pointe seulement. Bonjour Tom Dubois.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Forum Vie Mobile, c'est un groupe de réflexion sur les questions de mobilité, groupe de réflexion initié et financé par la SNCF. Alors le but de cette mesure, c'est bien sûr de diminuer le nombre de voitures pour réduire la pollution et les nuisances sonores. Et pour cela, il faut forcément en passer par la contrainte.
Oui, je pense qu'on est obligé de changer un petit peu notre paradigme. Je dirais même que c'est ce qui est en train de se passer montre qu'on est en train de changer d'air dans notre manière de travailler sur ce type d'infrastructure. Avant, il y a une cinquantaine d'années, quand on a créé le périphérique, et jusqu'à il y a assez peu de temps, l'idée c'était de toujours fluidifier le trafic pour permettre aux personnes d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Aujourd'hui, on revient de ça, et l'objectif c'est plutôt de limiter les nuisances de la voiture. Et donc du coup, limiter le nombre de voitures qui passent, limiter sa vitesse, etc.
Mais comment on va faire pour les contrôles ? Il y a des radars qui sont suffisamment performants pour voir s'il y a une personne ou deux, s'il y a un enfant qui est petit dans la voiture, on peut le voir ?
Oui, alors justement, les expérimentations qui ont été menées un peu dans d'autres villes en France et internationales montrent que, sans contrôle, la voie de covoiturage ne fonctionne pas puisqu'il y a trop de triche, entre guillemets. Il est trop facile ou trop tentant de se rabattre sur la voie où il y a par définition un petit peu moins de trafic. Mmh. Et donc là, la mairie de Paris a bien prévu de mettre en place un système de contrôle, mais qui ne sera verbalisé qu'à partir du mois de mai.
Donc dans deux mois, ce sera à partir de à partir du mois de mai 135 € d'amende si on respecte pas cette interdiction donc sur le périphérique parisien. Deux mois, c'est suffisant pour que les habitudes changent ?
Oui, je pense que là, l'essentiel, c'est quand même de comprendre quelles sont les plages horaires qui sont concernées, quelle est la signalisation et quel est le comportement à adopter. C'est vrai que sur le périphérique parisien, aux heures de pointe, avec une congestion extrême, finalement, ça sera pas très compliqué à mettre en place, quelques habitudes à changer et ça devrait rouler.
Mais il risque d'y avoir d'énormes embouteillages, non ?
Sur les autres voies ? Exactement, il y a une espèce de contradiction. Dans un premier temps, ce type de mesures vont plutôt avoir tendance à augmenter la congestion sur les autres voies pour diminuer la congestion sur la voie de covoiturage. Mais c'est l'objectif, ça fait partie de la contrainte. La contrainte, c'est pas uniquement l'amende, c'est aussi le fait de pouvoir d'avoir plus de difficultés à circuler sur les autres voies.
Mais est-ce que c'est une mesure juste ? Parce que généralement, ce genre de mesure se confronte toujours à une question d'égalité sociale. C'est pas la même chose quelqu'un qui a les moyens d'habiter dans Paris ou en proche banlieue, qui donc dispose de tous les moyens de transport disponibles, et quelqu'un qui vit plus loin. Il n'y a pas les mêmes contraintes.
Ouais, alors je pense que cette injustice, c'est vrai, c'est une question qui est importante. On sait que les personnes qui utilisent le périphérique parisien sont à 80% des non-parisiens. 40% d'entre eux ne rentrent même pas dans Paris. Ils utilisent le périphérique juste comme une rampe de lancement pour partir plus loin en Île-de-France. Donc c'est sûr que pour ces personnes-là, le périphérique parisien a structuré leur mode de vie, a structuré leur manière de se déplacer en Île-de-France. Donc eux, ils sont dépendants de leur voiture et de leur trajet pour aller travailler tous les jours, par exemple. Et donc, pour répondre à cette injustice, c'est pas tellement le périphérique lui-même qui peut le faire tout seul, en tout cas, mais c'est aussi la manière dont on va penser l'organisation du travail en Île-de-France, l'aménagement du territoire. Il faut arrêter, en Île-de-France, de penser que la région est un bassin d'emploi unique à traverser tous les matins et tous les soirs.
Mais avec une telle mesure, là, on fait porter toute la responsabilité, finalement, sur l'individu, sur celui qui a besoin de sa voiture. C'est à lui de se débrouiller pour trouver du covoiturage, pour trouver un transport alternatif à la voiture, alors qu'on sait qu'il y a un problème d'offre. Les transports en commun aux heures de pointe sont bondés.
Alors, on a une chance quand même en Île-de-France, c'est que c'est là où on a l'offre la plus développée par rapport à d'autres villes en province. Mais c'est sûr que de toute façon, quand on met en place ce type de mesure, il faut mettre à côté des alternatives, proposer des alternatives aux autosolistes, comme on les appelle. Et donc, la voie de covoiturage en tant que telle est une offre alternative. Et puis, par ailleurs, il y a le Grand Paris Express qui est en train de se développer, qui pourra répondre à une partie des usages.
Mais ça, c'est pas maintenant.
Aller plus loin.
Mais c'est pas maintenant. Alors que la mesure, elle entre en vigueur aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. Mais disons que je pense qu'une partie du Grand Paris Express qui est entrée en vigueur, je l'espère, pourra servir. Et puis pour les autres, c'est sûr que la municipalité, mais aussi la région Île-de-France, et ça, c'est un point important. Ce n'est pas une affaire parisienne, le périphérique. C'est vraiment une affaire francilienne. Et il faut penser l'organisation du territoire à l'échelle de l'Île-de-France et donc la mobilité aussi à l'échelle de l'Île-de-France.
Alors vous le disiez, il y a d'autres villes qui ont déjà aménagé des voies de covoiturage depuis des années. Lille, Grenoble, Lyon, Strasbourg. C'est quoi le bilan? Ça marche bien ou pas? Vous le disiez, quand il n'y a pas de contrôle, ça ne marche pas.
Quand il n'y a pas de contrôle, ça ne marche pas. Ça, c'est une des principales leçons des autres exemples. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que lorsque... Donc, ce n'est pas en France, mais c'est par exemple aux États-Unis ou au Canada. Lorsqu'on a commencé à mettre en place des voies de covoiturage, on avait tendance à ajouter une voie, à offrir une voie supplémentaire. Et ça, en fait, ça a vraiment un effet qui est pervers, puisque je crois qu'ils l'ont fait à Rennes également, avec une bande d'arrêt d'urgence transformée en voie covoiturée. Et en fait, on augmente la capacité de l'infrastructure à accepter des voitures, et au final, on se retrouve avec davantage de véhicules.
Dans votre monde, Tom Dubois, il n'y a aucune voiture? Il n'y a plus aucune voiture?
Au Forum Viomobile, on travaille justement sur qu'est-ce que ce serait ce monde idéal où on pourrait se déplacer sans trop de contraintes, à sa guise, entre guillemets, selon ses aspirations, et en même temps en limitant les impacts du système de mobilité actuel qui est très largement dominé par la voiture.
Même des voitures électriques ?
Et même la voiture électrique. Alors justement, sur la voiture électrique, il y a un enjeu, c'est si on met en place sur la voie de covoiturage une dérogation pour les véhicules électriques, là, on va avoir un enjeu social très fort, puisqu'aujourd'hui, on sait que ce sont les plus aisés qui peuvent acheter des véhicules électriques. Donc, il faut faire très attention.
Merci, Tom Dubois, porte-parole de Forum Vie Mobile. Vous étiez l'invité du 5-7. Bonne journée.